C'est dur à expliquer ça, ce que c'est la blockchain. J'ai une image dans mon esprit, tu vois, mais le dire avec des mots, c'est chaud.
Rassurez-vous, on en est quasiment tous là avec les blockchains. Pourtant, la première d'entre elles, la blockchain Bitcoin, a fêté ses 10 ans. Aujourd'hui, ces petits joujoux technologiques se comptent par centaines. Mais à quoi servent-elles? Et surtout, à quoi serviront-elles dans 10 ans? En 2031, alors en fait, c'est plutôt en 2032, mais c'est pour les besoins du titre de la série, hein. Est-ce que cette techno qu'on dit révolutionnaire pour la sécurité des données sortira enfin de sa niche de technophile et de spéculateur pour connaître le succès populaire? Vous écoutez la deuxième saison de 2031, une série de podcasts produite par La Cantine et Stéréolux. Je m'appelle Jean Chabot et je vais faire en sorte que vous ne disiez plus jamais que vous n'y comprenez rien à la blockchain. Épisode 7. La déferlante NFT est-elle inéluctable? Ce qui est marrant avec les NFT, c'est que quand vous cherchez à comprendre ce que c'est, une fois sur deux, la personne en face commence par vous dire « Ah bah c'est des jetons non fongibles !»« Ah bah ok, bon bah d'accord, c'est réglé alors. Tout le monde a capté l'histoire des jetons non fongibles? On peut ranger ?»« Bah oui, fongiblé, hyper fréquent comme verbe. Ça va Michel? Ça va, tranquille, je comptais fongibler un jeton ou deux avant de partir. » Donc on va éviter ça et je vais essayer de ne pas vous la faire à l'envers.
Un NFT, alors c'est vrai que je déteste personnellement parler de fongible, non fongible, de token. Je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose.
Ah ben au moins on est d'accord avec John Karp. Il est le co-auteur d'un ouvrage tout juste sorti qui s'appelle NFT Révolution et il anime un podcast quotidien sur le sujet.
Pour moi, un NFT, c'est un titre de propriété d'un objet numérique, tout simplement. Et donc, ça te donne les attributs de propriété de quelque chose sur lequel tu n'avais pas d'attributs de propriété jusqu'à présent. Que ce soit des terrains, que ce soit des œuvres, que ce soit des skins dans un jeu vidéo ou encore des cartes de Panini à collectionner. À partir du moment où on comprend ce principe, bah, finalement, il n'y a aucune limite. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus simple que beaucoup de problématiques techniques sur Internet.
Ce que tu dis est très juste. Mais si tu permets, John, je vais préciser un peu. Le NFT, c'est comme un papier officiel qui vous donne certains droits sur l'objet virtuel que vous venez d'acheter sur Internet. C'est quoi ces objets virtuels? Bah, ça peut être une image, une musique, un extrait de film ou de match de basket, une pub, un fond d'écran, un billet électronique pour un concert, un filtre photo sur Instagram, mais aussi un nom de domaine par exemple, ou même un PowerPoint. Ça peut aussi être un avatar ou une arme spéciale dans un jeu vidéo, ou même un terrain ou une maison dans un univers virtuel de type métaverse. Tout ça peut recevoir cette certification qu'on appelle NFT et qui est gravée sur une blockchain pour dire que oui, vous l'avez bien acheté, vous avez des droits dessus. Et de fait, votre certificat NFT devient unique et monnayable, même si l'objet que vous avez acquis et auquel il est rattaché continue, lui, d'être visible dans le jeu vidéo ou la plateforme sur laquelle vous l'avez acheté. Le vrai nom des NFT, c'est donc Non-Fungible Token, jeton non fongible. Ça y est, je l'ai dit. Dans l'univers des blockchains, un jeton, ou token, c'est un actif numérique, un truc qui a une valeur, quoi. De l'argent, toutes les crypto-monnaies sont des tokens, mais aussi des actions, un objet rare que vous avez acheté dans un jeu vidéo, une œuvre d'art numérique. Le truc, c'est que souvent, les tokens sont interchangeables. Même s'ils sont numérotés, tous les Ethers se valent, tous les Bitcoins se valent, exactement comme nos billets de banque, on ne les distingue pas. On dit qu'ils sont fongibles. C'est pas beau comme mot, hein. Si un token n'est pas interchangeable, il est non fongible. Il est NFT. Et si ce NFT vous appartient, il prend place dans votre wallet, le portefeuille qui contient tous vos actifs numériques. En accumulant les NFT dans votre portefeuille, vous personnalisez votre présence sur le web puisque ce que vous montrez vous appartient.
Que demain, quand je fais un zoom, au lieu d'afficher une plage hawaïenne fournie par Microsoft en fond d'écran, bah, j'ai envie d'afficher un environnement qui m'est propre, dans lequel il y a ma personnalité, dans lequel il y a des œuvres que je possède ou un fond d'écran que je possède. C'est une évolution logique que demain, en effet, sur Instagram, je puisse utiliser des filtres qui me correspondent, qui soient personnalisés, dont je sois l'unique propriétaire. Finalement, c'est assez logique et le fait d'être propriétaire de biens numériques, plus on creuse, plus on se rend compte que ce qui n'est pas logique, c'est le contraire. Ce qui n'est pas logique, c'est justement que dans Fortnite, j'achète des objets, mais que je ne puisse pas les sortir de Fortnite pour les vendre sur le bon coin, ou que je ne puisse pas justement les prêter à des amis ou en faire ce que je veux, en être vraiment propriétaire. Quand j'achète des vêtements chez Zara, je peux les vendre sur Vinted pourquoi je pourrais pas le faire finalement sur Fortnite? Donc c'est ça en fait la force de la blockchain et l'intérêt de tout ça, c'est vraiment de créer une propriété réelle qui soit en abstraction avec l'émetteur.
Techniquement, les NFT sont des smart contracts qui contiennent quelques informations sur l'objet. Son nom, son créateur, ses différents propriétaires, et basta. Les NFT se répartissent en 5 grandes familles. 1. Les œuvres d'art numériques. 2. Les objets de collection, type CryptoPunk ou CryptoKitties. C'est comme des petites figurines à collectionner, mais en pixels, quoi. 3. Les terrains fonciers, dans les univers virtuels qu'on appelle les métaverses. 4. Les équipements et skins dans les jeux vidéo. 5. Les utilitaires, par exemple un nom de domaine ou un ticket de concert. Le site nonfungible.com, qui analyse les ventes de NFT sur la blockchain Ethereum, c'est-à-dire celle qui enregistre le plus gros trafic de NFT, a noté qu'en 2020, la vente de NFT sur Ethereum totalisait 500 millions de dollars. Un an et demi plus tard, sur le seul deuxième trimestre 2021, ça montait à 1 milliard de dollars. Et attendez, c'est pas fini, au troisième trimestre, à 6 milliards de dollars. La croissance est donc phénoménale, mais Maxime Laglace, qui est directeur de contenu chez nonfungible.com, aimerait nuancer un peu en parlant des utilisateurs quotidiens du NFT.
Donc, ce qu'on appelle des utilisateurs quotidiens, c'est un portefeuille qui interagit au moins une fois avec un NFT. Donc, ça peut être de l'achat, ça peut être de la vente, ou tout simplement l'utilisation d'un NFT pour signer numériquement un accès. En début de l'année, on était à environ 1500 utilisateurs par jour. À partir de août, on est passé à 23 000. Et depuis, en moyenne, le chiffre bas est environ à 12 000 wallets, donc qui interagissent tous les jours avec l'univers des NFT. Ça, c'est un chiffre en fait que j'apprécie beaucoup parce qu'on a l'impression qu'il y a une adoption qui est mondiale, qui explose. Bon, 11 000 utilisateurs par jour, bon, c'est par rapport à tout ce que le nombre d'utilisateurs d'Internet, je veux dire, il y a encore une marge de progression qui est quand même assez monumentale, donc c'est encore un marché de niche. Et c'est une information qui me paraît quand même assez importante.
Eh bien oui, la couverture médiatique sur les NFT est juste dingue. Mais on peut se demander comment ils pourraient se développer d'ici 10 ans. Vont-ils poursuivre la même courbe de croissance? Pour répondre à cette question casse-gueule, je suis allé interroger Anthony Mazur. Anthony, il est prof à la Haute École d'Art et de Design de Genève, et il prépare un guide sur les NFT. À un moment, vous entendrez, il parle d'assets. Les assets, ce sont des objets numériques susceptibles de devenir des NFT.
L'avenir des NFT, je pense que pour beaucoup de personnes, comme beaucoup de technologies d'ailleurs, les personnes ne se rendront même pas compte qu'elles utilisent des NFT alors qu'elles le font. Donc je pense que ce sera masqué dans tout un tas de services qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est surtout activé dans les champs de la création, un petit peu également dans le domaine juridique ou financier, évidemment, sur la question des titres de propriété. Mais je vois à court terme, c'est-à-dire à horizon 1 an, 2 ans, un gros impact dans le jeu vidéo. Pourquoi ? Parce que le jeu vidéo, aujourd'hui, en 2021, concerne environ 2,7 milliards de joueurs et de joueuses, donc une personne sur 2 ou 3 dans le monde. Il y a une économie des skins, c'est-à-dire d'assets numériques qui servent à customiser des personnages ou des situations qui est déjà gigantesque. Et la rencontre entre la blockchain qui permet de certifier des assets et ce marché du jeu vidéo semble juste évidente. Toujours en 2021, on a un jeu vidéo qui s'appelle Axie Infinity, qui réunit plus de 2 millions de joueurs et de joueuses, qui représentent 17% du marché de tous les NFT pour un seul jeu. Et donc la plupart des gros éditeurs sont dessus, comme Ubisoft, etc. Et donc c'est tout à fait probable, là je mets une forte probabilité pour cette prédiction que d'ici deux ans, ce soit vraiment généralisé dans le jeu.
En dehors du jeu vidéo, les usages attendus pourraient être assez variés. Prenez la série de 10 000 NFT appelée Bored Apes. Des dessins de singes qui s'ennuient et qu'on peut collectionner. Enfin, si on a assez d'argent, quoi.
La possession d'une de ces images donne accès à des soirées privées sur des yachts ou tout un tas d'autres événements. Donc je pense que pour le monde de l'événementiel, ça aura une grande importance. Les billets de concert seront à la fois un ticket d'entrée, mais auront également une valeur plastique ou esthétique en soi. Et tout ça pourra se trader et s'échanger sur des places de marché décentralisées.
Et si on se projette plus loin, Anthony imagine que les NFT serviront à nous loguer sur tel ou tel site, à échanger en ligne sur les chats ou en visioconférence. Il imagine aussi que d'ici 2031, il faudra résoudre des questions vraiment cruciales.
Si aujourd'hui je possède un CryptoPunk à 400 000 francs, que quelqu'un vient chez moi, bah comment je le montre ? Je peux le montrer sur mon laptop, mais c'est un peu décevant pour un objet aussi cher. Donc là, il y aura un défi pour le design produit, d'aménager des espaces ou des objets qui permettent de montrer, de valoriser des objets numériques qu'on possède, mais dans le monde tangible. Est-ce que ce sera des montres sur lesquelles il y aura des écrans? Ça, c'est un peu ringard, peut-être, comme idée. Est-ce que ce sera des murs écrans? Est-ce que ce sera des cadres, comme les cadres photos? Je pense qu'il y a tout un panel d'objets qui reste à inventer, et je pense qu'on les verra apparaître dans quelques années.
Je vais faire mon relou, mais encore une fois, comme avec les DAO, les NFT ne sont pas vraiment décentralisés. En effet, ce qui est sur la blockchain, c'est votre NFT, le certificat d'authenticité. Mais l'objet virtuel que vous possédez, qui est certifié, il n'est pas sur la blockchain.
Ah !
Il est sur Internet, à une adresse visible de tous, hébergé sur un serveur central, quelque part chez Google, Dropbox, ou sur les serveurs d'OpenSea, la plus grosse plateforme d'achat et d'échange de NFT au monde. Autre problème, et un gros, si votre NFT est authentique, il arrive souvent que l'objet numérique auquel il renvoie ne le soit pas. Je prends l'exemple avec la marque de luxe Hermès, qui vient d'attaquer un artiste en justice parce qu'il avait NFTisé, et donc monétisé, des photos de sac Hermès Birkin.
D'accord.
Autre exemple, OpenSea, la plus grosse plateforme de diffusion de NFT au monde, reconnaît elle-même que 80% des NFT déposés sont des faux, des plagiats ou des spams. 80%. On verra ça plus en détail dans l'épisode 8, qui sera consacré justement aux NFT sur le marché de l'art. Et puis, troisième hypothèque sur l'avenir des NFT, la question du type de blockchain qui les abrite.
Non, en fait, la blockchain du NFT aujourd'hui, c'est Ethereum. Il y a assez peu de NFT qui circulent sur Bitcoin, parce que Bitcoin est la première blockchain, elle est difficilement utilisable, on va dire, pour des usages autres que stocker des Bitcoins et de l'argent. C'est l'innovation qu'a ajouté Ethereum en fait en 2015 quand ils sont arrivés, c'était d'avoir finalement une plateforme programmable beaucoup plus souple et qui permet de coder justement ces fameux smart contracts qui a permis aujourd'hui de créer toute une économie. Ça veut dire que la plupart des usages de la blockchain aujourd'hui ont lieu sur cette deuxième blockchain qui est la blockchain Ethereum, que ça soit la finance décentralisée mais aussi tout l'univers des NFT. On va dire qu'il y a un écosystème qui s'est créé avec ce nouvel Internet qui est Ethereum. Maintenant, il y a beaucoup d'autres nouvelles blockchains qui sont en train d'apparaître, qui sont elles-mêmes plus flexibles et moins coûteuses qu'Ethereum. On a Solana, on a Tezos, on en a d'autres. Et donc, ces nouvelles blockchains, elles, commencent à aussi faire un petit peu leur trou dans l'univers du NFT, même si aujourd'hui, elles ne sont pas majoritaires.
Pour l'instant, Ethereum est encore en preuve de travail. Très gourmande en énergie. Mais combien de temps les clientes et les clients de NFT accepteront de faire tourner une preuve de travail pour abriter des certificats d'authenticité de petits punks ou de petits singes qui s'ennuient ? Des plateformes d'échange comme Ik et Nunk, mais il y en a d'autres, hein, donc des concurrents d'OpenSea, se sont spécialisés dans l'autoproclamé Clean NFT, NFT propre, dont la production reposerait sur la preuve d'enjeu. Est-ce que c'est une façon de se dédouaner ? Dans l'épisode 8, vous découvrirez comment les NFT prétendent bousculer le marché de l'art.